Bienvenue sur Point de sauvegarde, le podcast jeux vidéo de la médiathèque Boris Vian de Chevilly-Larue, présenté par Blaise, Franck et Marie. Chaque mois, ou plus si affinité, nous vous partageons nos expériences sur un jeu vidéo présent à la médiathèque. Bonne écoute et n'oubliez pas de sauvegarder.
Comment on commence ?
I'm back, bitches !
Parce que ça fait longtemps.
J'ai dû prendre. On m'a cassé du sucre sur dos. I'm back, bitches.
Le mec est de retour, ça y est. Ça y est.
Ouais, vous avez trop pris vos aises là, ça va pas là. Il fallait revenir réguler tout ce game.
Ouais, il va plus jamais fermer sa bouche. C'est fini.
Vous êtes cuit.
Bon, comment ça va, Franck ?
Écoute, ça va et toi ?
Bien remis ?
Oh, ça va, ça va, ça va.
Ça va ?
Donc je vois que vous avez parlé en plus de mes affres.
Ah ouais, mais tout en gardant une espèce de mystère quand même.
Ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour tous les mots de gentillesse que j'ai reçus, c'est-à-dire aucun. Personne ne s'est inquiété, je vous remercie beaucoup. Bon, cool.
Cool. On est en été. C'est l'été.
C'est l'été, c'est un épisode qui est enregistré en été. En été, qu'est-ce qui se passe en général ? Quand on est tous les deux dans
une
pièce.
Quand on est tous les deux dans une pièce, généralement, on finit par parler de From Software.
Et donc, on ne va pas déroger à la règle, hein, je pense. Hein. De quoi on parle ?
De quoi on parle ? Ben, on parle du dernier sorti en date. On va parler de Elden Ring, le jeu de l'année 2022, l'extraordinaire jeu, dernier jeu de From Software, ouais. En fait, qui a fait l'unanimité.
Ouais.
L'unanimité, on avait... Qui a rendu leur formule hyper grand public et sur lequel j'ai l'impression que tout le monde a au moins essayé de jouer.
Ouais. Le spécialiste de ce fameux studio là, est-ce qu'il y a encore besoin de présenter From Software?
Je sais pas, on l'a fait deux fois déjà.
Ouais.
Quand est-ce qu'on l'a fait deux fois en deux ans?
Ouais.
Deux fois en deux ans, on a déjà parlé de Sekiro et de Dark Souls.
Dark Souls.
Premier du nom.
Chef-d'œuvre.
Ouais. On en a parlé en long, en large, et en travers. Ouais. Allez écouter ça. Donc, comme on disait, Elden Ring, c'est la suite. Pas spirituel, c'est la vraie suite en fait de Dark Souls et de cette série. Donc initiée par, on va encore en reparler, hein, Hidetaka Miyazaki, qui a sorti son premier jeu avec From Software, donc Demon's Souls, et puis après qui s'est un peu divisé en plusieurs catégories de jeux, donc les Dark Souls, donc la série classique, Bloodborne, Sekiro, et maintenant Elden Ring. Donc c'est des jeux qui sont maintenant appelés qui sont le maître étalon en fait de ce qu'on appelle maintenant les Souls-like. Et en gros c'est des jeux plutôt exigeants qui s'inspirent de RPG assez rétro dans l'esprit.
Donc de jeux de rôle pour RPG.
Du jeu de rôle, en plus jeu de rôle plutôt européen en plus. Donc très dungeon crawler un peu difficile, avec une physique particulière, un jeu plutôt difficile à prendre en main, mais qui est hyper satisfaisant quand on l'a compris en fait, et qui rend aux joueurs tout ce qui met dans le jeu en fait.
Tout à fait.
Donc Elden Ring, c'est le dernier sorti en fait de From Software, donc il est sorti en 2022.
C'est ça, en février 2022. Le 25 février,
ouais.
C'est ça.
Si vous avez bien suivi, vous savez que j'ai pris des vacances à ce moment-là. On l'a dit à plusieurs reprises, on l'a fait remarquer à plusieurs reprises.
Et c'est un jeu qui, dès qu'il est apparu dans les radars de l'Internet international, qui a suscité une grande hype,
une
attention. Et pourquoi en fait il a suscité une telle hype en fait.
Le premier teaser du jeu c'est en 2019 ou 2020, à l'E3 en fait, un des derniers E3, donc c'était peut-être 2019, à une conférence Microsoft. En fait le jeu est un petit teaser où on voit juste un gars forger ce qu'on comprend être un espèce d'anneau.
Ouais.
Donc Donc tout, tout avec un esprit un peu nordique, je trouve. Donc il y a ça, il y a l'annonce de la participation de George R. R. Martin à l'écriture du jeu.
George R. R. Martin étant l'auteur de Game of Thrones ou Le Trône de Fer en donc, version française.
Une grande, grande hype aussi à ce moment-là sur, le, sur, le, sur ce, ce, cette, cette série de livres et télévisuels, du coup. Et aussi, je trouve, une espèce de d'annonce comme ça autour d'un anneau qui moi qui m'a fait tout de suite penser un peu au Seigneur des Anneaux,
ou
une espèce de comme ça d'ambiance plus peut-être moins sombre que Dark Souls et un peu plus aéré, un peu plus Seigneur des Anneaux quoi.
Ouais. Mais pourtant le trailer en question, enfin l'extrait était pas c'était pas un extrait d'ailleurs, c'était un non, c'était un trailer.
Un teaser.
Ouais ouais, un teaser et était relativement sombre quand même en fait.
Ouais.
On sentait qu'il y avait quelque chose quand même qui perdurait de
ouais,
l'héritage d'Dark Souls.
Quand même, quoi. Image, ouais.
Mais il y a ce côté doré, ouais, ce côté ouais, doré ouais, qui était très présent en fait, ouais. Et ouais, c'est ça. Ouais.
Avec des, on commençait à voir les premiers personnages, il y avait Malenia, il y avait Radahn, je crois aussi. Enfin, vraiment, on rentrait dans un univers de ouf qui était différent aussi des Dark Souls, parce qu'à l'époque, il y avait encore, enfin, leur référence de fantasy visuellement, c'était Dark Souls.
Ouais.
Donc là, on voyait qu'on passait à une autre étape, qu'on passait à autre chose, et rien que ça, c'était enthousiasmant de les voir aller, aller sur un autre univers. Et en plus proposé par George R. R. Martin.
Moi, ça m'a rendu ouf. Juste de voir son, de voir ouais. son nom, de voir son nom dessus, je me suis dit waouh, à quelle hauteur a été sa participation ? Qu'est-ce qui peut amener en fait à la formule de From Software, qui somme toute avait, enfin, est restée un peu la même en fait.
Ouais,
Les thématiques, en tout cas, les thématiques sont restées souvent les mêmes. Et ouais, ouais, on se dit. Il va nous amener des histoires d'inceste, des trahisons, des trahisons de tous les bords et des trucs bien bressons. On est pas mal.
Et puis, sa participation a été quand même beaucoup mise en avant et en même temps...
elle est pas si importante que ça
aujourd'hui que
il a créé quelques fondations en fait.
C'était probablement plus pour le marketing que pour le fondement du jeu quoi. Donc après cette annonce vraiment en grande pompe, quelques infos sont distillées au fil de l'année 2021 ou 2020-2021 peut-être. Et on commence à voir donc des infos sur ce que serait le jeu, donc a priori un monde ouvert. Ce qui est quand même une nouveauté.
Ouais.
Parce que si
c'est la nouveauté.
C'est la grosse nouveauté. Parce que si vous avez écouté les numéros d'avant, vous savez que c'était plutôt typé Metroidvania plus que monde ouvert, comme on l'entend aujourd'hui. Donc monde ouvert. Donc pareil, ça renforce aussi la hype.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut parler de ce qu'est un monde ouvert?
Ouais. Monde ouvert, c'est... dans un jeu vidéo, c'est une vaste carte qui est ouverte et qui invite le joueur à la découvrir sans être trop orienté dedans. Et c'est un genre de jeu hyper populaire, enfin, c'est un genre de level design en tout cas hyper populaire qu'on voit partout aujourd'hui. Hérité un peu de GTA, un peu de Assassin's Creed, un peu du dernier Zelda par exemple. Et en fait, tout ça aujourd'hui, c'est un. Quasiment tous les jeux triple A sont des mondes ouverts en fait.
La particularité du monde ouvert d'ailleurs, c'est que on ne vous oblige pas en fait à commencer, enfin on vous oblige à commencer à un point, mais vous pouvez déambuler un peu partout en fait. Il y a forcément sur ces cartes des ennemis un peu plus forts que les autres, mais on peut toujours se débrouiller. Et c'est ce qui est intéressant dans le monde ouvert.
Il y a une exploration qui est un peu plus poussée parce que justement il y a plein de trucs. Le paysage, les décors, enfin il y a tout un travail comme ça qui aujourd'hui de mise en valeur de l'exploration et des vastes espaces en fait dans les jeux et surtout dans les triple A. Et ce qui est déjà le signe que From Software change un peu de dimension en proposant un style de jeu qui est beaucoup plus approprié quand on parle justement de grosses productions hyper ambitieuses plutôt que de leur jeu d'origine qui était un peu plus restreint en termes de budget, a priori, quoi. Suite à tout ça, on a l'annonce avec le vrai premier trailer du jeu qui arrive avec la date de sortie, donc en 2022, au Summer Game Fest, donc en juin 2022.
Ouais.
Qu'est-ce que je raconte ? En juin 2021, parce que le jeu sort en 2022, donc
oui,
en
juin. Oui, 2021, pardon. Oui.
En juin 2021, donc on a, voilà, ça y est, trailer avec quasiment toutes les infos qu'il fallait avoir sur le jeu. Donc le fait qu'il y aurait une monture, donc un espèce de cheval.
Un destrier.
Qu'il y allait avoir plein d'environnements différents, ils commencent à montrer leurs ennemis, les boss, tout ça. Enfin voilà, on en prend plein les yeux. Et l'annonce
de la sortie.
De la sortie, donc le 25 février 2022. Mm. Donc là, ça y est, la hype est partie. Et je trouve que ce qui est particulier avec Elden Ring par rapport aux autres, c'est vraiment la hype à la hype, quoi.
Ben, en fait, on s'est rendu compte du changement d'échelle, ouais. Et des répercussions mondiales qu'a eu ce trailer et l'attente qu'il a suscité, en fait.
Ah ouais, c'était dingue, quoi.
Tout le monde de votre boulanger à votre boucher ou votre grand-mère attendait Elden Ring et ça s'est ressenti, en fait. Ça s'est énormément ressenti et je me demande comment ça a pu changer d'échelle. Peut-être que c'est à cause du côté open world.
Les succès successifs. ouais, et puis je pense l'envie d'aller plus loin. Et je pense que la sortie d'un certain Zelda Breath of the Wild a aussi changé pour moi une forme de création dans le monde ouvert qui leur a plu, j'imagine. Qui était d'ailleurs une réponse, hein, parce que d'aucuns disaient à l'époque que Breath of the Wild était une forme d'inspiration
de Dark Souls, ouais. Il y avait des choses.
Sur le côté solitaire, le côté laissé un peu à l'abandon, tout seul dans le monde. Et qu'en fait, je pense que la formule proposée par Zelda a dû probablement beaucoup toucher et plaire les Hidetaka Miyazaki et ses équipes pour aller aussi proposer quelque chose. Parce que pour moi, l'inspiration première de ce Elden Ring, c'est
Zelda.
Breath of the Wild.
Ouais.
Ça transpire Breath of the Wild partout.
Alors, ce qui est marrant, c'est que j'ai vu un article qui disait que finalement les équipes n'avaient pas eu tant de temps de jouer à Breath of the Wild, en fait. Mais moi, ça m'étonne, parce que tu ressens trop de choses du jeu, en fait, dans Elden Ring.
Après, il y a une question d'époque aussi. Je pense que les gens ont des idées au même moment, aussi parce qu'il y a une forme d'avancée d'esprit dans le truc. Moi, j'ai trouvé aussi qu'il y avait un esprit un peu Hollow Knight dans la présentation de la carte, dans l'ambiance qu'on essayait d'instaurer, qui était présente aussi. Et Hollow Knight, c'est pareil, c'est 2017, donc tu sens qu'il y a eu à un moment donné un petit changement dans le monde ouvert. On passe d'un truc très carte, très stéréotypé, très The Witcher avec des points.
Witcher, partout, Skyrim.
Assassin's Creed, on disait justement avec les Assassin's Creed Odyssey et Origins, avec des points d'intérêt partout, très compliqués, des cartes remplies de trucs, à un truc complètement radical de on enlève tout ça et maintenant vous explorez tout seul. Et
plus épuré, ouais.
Plus épuré. Je pense que c'est clairement cette direction qu'a pris le monde ouvert aujourd'hui, et surtout le monde ouvert de Zelda depuis
Breath of the Wild. Elden Ring.
Et Elden Ring.
Du coup, Blaise, Elden Ring, c'est quel genre de jeu? On a dit que c'était un RPG, mais un peu particulier.
Ah, RPG, monde ouvert. Donc, tu reprends la formule vraiment des Dark Souls, et notamment de Dark Souls 3.
Ouais.
Donc, avec un système centré autour de l'endurance. Donc, on a un personnage, c'est à la troisième personne, c'est un jeu d'action à la troisième personne. On va avoir un personnage avec une arme, ou un bouclier, ou plein de types d'armes différents, en fait. Des dagues, des épées à deux mains, des haches à deux mains, des katanas, vraiment toutes les armes qu'on peut imaginer, en fait, les armes un peu médiévales qu'on peut imaginer, plus des trucs magiques et des bâtons magiques et tout, vraiment très classique, autour de l'endurance, donc qui va nous permettre à la fois de déplacer le personnage, donc de courir, de faire des esquives, et aussi de donner des coups. Donc ça, c'est vraiment la base de Dark Souls, qui est vraiment reprise telle quelle, avec une barre de magie, donc comme dans Dark Souls 3, qui permet à la fois d'utiliser de la magie, et d'utiliser, à la manière de Dark Souls 3, des weapon art, Donc, ils sont des...
Des magies d'armes, en fait.
Ouais. Des mouvements spéciaux que chaque arme possède. Donc, dans le jeu, chaque arme va avoir un mouvement spécial qui lui est attribué. La seule nouveauté, et que je trouve vraiment excellente moi, par rapport à Dark Souls 3, c'est qu'il est possible de changer la compétence spéciale qu'on va d'une arme. Et qu'en fait, on va pouvoir...
Les cendres de guerre.
C'est ça. Ils appellent ça les cendres de guerre. Et en fait, quand on récupère une arme, on va pouvoir la... découvrir une nouvelle cendre de guerre qu'on va pouvoir mettre sur une autre arme. Ce qui rend le truc assez intéressant parce qu'il y a un côté un peu bac à sable où on peut tester un peu tout et n'importe quoi. Et ça rend le truc assez fun et ça encourage, je trouve, à tester aussi plein d'armes différentes, de modifier ses statistiques pour l'adapter à notre personnage. Si on a un personnage plus basé sur la force, et ben on peut modifier quelques trucs. Pareil, si on veut de la dextérité, ben on peut prendre une arme plutôt forte et lui mettre des trucs plutôt dextérité. Donc je trouve que ça encourage l'expérimentation.
Ah, tu rentres dans le cœur du truc déjà là, mais c'est vrai que...
On parlait du type de jeu,
mais c'est vrai que lorsqu'on débute le jeu, on a le choix entre différents personnages avec différentes compétences.
Les classes du jeu de rôle, en fait. Voilà, magicien, combattant, archer,
barbare, voilà. Ou saint ou religieux, des choses comme ça. Et tu parlais là un petit peu de dextérité. Donc, c'est vrai que notre personnage a des sortes de compétences qu'on peut, du coup, faire évoluer.
Il y a une petite feuille de personnage classique dans laquelle on va pouvoir augmenter au fil des niveaux notre vitalité, donc notre barre de vie, notre barre d'endurance, notre barre de magie. Et après... la dextérité, la force, notre magie, et en fait toutes ces choses là vont s'augmenter petit à petit avec les niveaux qu'on va prendre. Et plus on va avoir des bonnes stats, plus on va pouvoir utiliser certaines armes et plus on va faire de dégâts avec ces armes et être plus résistant.
Donc là on se retrouve parachuté sur une carte. Qu'est-ce qui fait que ça marche en fait là pour le coup quand t'es au tout début? Qu'est-ce qui te donne envie de te balader en fait? Parce que moi, je vais répondre à la question en fait que je pose. C'est vrai que lorsque je me suis retrouvé dans Elden Ring la première fois, ça m'a donné tout de suite envie d'aller plus loin parce que un peu comme dans Breath of the Wild
L'introduction est tellement similaire.
Ouais, c'est clair.
C'est un message en fait de dire vous avez aimé
Breath of the Wild,
allez-y quoi.
Ouais.
Pareil, on sort d'une cave et on rentre dans un... Et on voit le monde, en fait.
Ouais.
On voit la taille du monde.
On se retrouve devant une carte... Enfin, pas une carte énorme, mais en fait, des paysages.
Des paysages magnifiques.
Un bord de mer, un château au loin, une lande un peu désolée sur la droite. Et on peut même apercevoir un ennemi assez colossal, pas très loin, en fait. Et c'est vrai que on te lance,
il y a vraiment une ambiance directe, quoi. C'est ouf.
On te lance dans le jeu et t'es pas agressé ni rien du tout, mais ça te donne envie de te déplacer et d'aller justement explorer. Je pense que c'est une grosse caractéristique en fait.
Bah, c'est le nœud à l'exploration, Elden Ring. Enfin, le jeu sait en plus, tu vois comment t'attirer vers des endroits. On va te montrer un certain type de statue, certains reliefs, et en fait, ça va juste t'attirer.
Puis il y a l'arbre aussi.
L'arbre au milieu.
Qu'on voit quasiment tout le temps. En fait.
L'espèce de repère en fait du jeu, qui est l'espèce à la fois de repère et à la fois de point final. C'est là qu'on doit aller. On nous dit dès le début, de toute façon, on comprend très vite. Il faut aller à l'arbre. Et en fait, on le voit tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu, on le voit. En même temps, on a envie d'y aller. On ne sait pas par où aller. Donc on suit un peu le chemin naturellement. Petit point aussi sur le système du jeu. Donc, comme les autres jeux From Software, il y a un équivalent du fameux feu de camp de Dark Souls, qui sont les sites de grâce, qui sont les points de checkpoint, en fait. Les points de sauvegarde. où on peut se poser, améliorer son personnage, améliorer ses armes, changer ses cendres, enfin, tout ça. Et là, par exemple, nouveauté par rapport aux anciens, c'est que quand on ouvre la carte, déjà il y a une carte, ce qui n'était pas le cas avant. Les jeux nous forçaient à nous rendre compte nous-mêmes des espaces dans lesquels on était.
C'est vrai, il y a une carte, en fait, effectivement.
Alors, qui est particulière parce que c'est pas une carte des bâtiments, c'est une carte de l'extérieur. Donc on peut garder quand même cette sensation très Dark Souls quand on rentre dans un château, par exemple. On va pas avoir la carte du château, donc on regarde quand même cette sensation ponctuellement sur sur certains types de lieux, des donjons en fait, sur lesquels on a ce...
Après, c'est pas une carte complète.
Non.
C'est une carte, en fait, c'est une pseudo-carte, en fait, c'est un espace pour lequel il faut trouver la carte, justement, qui met du détail,
en fait. Un peu à la manière des mondes ouverts dont on parlait, hein. Tu dois trouver l'item qui te permet d'agrandir la carte et en fait de voir les espaces, les choses représentées sur la carte. Et donc ces sites de grâce, ils apparaissent sur la carte et...
ils indiquent un chemin.
Et le chemin qu'ils indiquent, c'est le chemin des ennemis, des gros ennemis en fait, qu'on doit abattre, parce que le début, c'est vrai qu'on ne parle pas vraiment de l'histoire, mais... Dans un jeu de ce genre, c'est toujours compliqué parce que l'histoire est tellement à la fois un prétexte et à la fois tellement en arrière-plan que, bon, on pourrait vous l'expliquer, ça ne changerait rien.
Ouais.
Mais l'idée, c'est qu'on doit tuer 4 ou 5
demi-dieux
pour récupérer leurs éclats de Elden Ring, en fait.
Du cercle, en fait, d'Elden.
Pour reformer le cercle d'Elden. Mmh. Et en gros, ces marques au niveau des sites de grâce nous montrent où sont ces seigneurs, où sont ces demi-dieux. Mais bon, ils nous montrent juste un chemin et puis c'est pas non plus hyper téléguidé, quoi. On sait que c'est vaguement au nord-est et puis on va vers vaguement au nord-est, quoi. Mais c'est quand même une nouveauté par rapport aux autres où on était vraiment pour le coup dans le niveau complètement.
Oui, il fallait faire appel à sa mémoire pour se souvenir un peu du chemin, des chemins et de. Ouais.
Petite nouveauté aussi, on a du craft.
Tout à fait.
C'est possible de... Là, vous avez tout un tas de choses à ramasser. Je pense que c'est aussi une manière pour eux de remplir le monde ouvert de petits éléments à ramasser, en fait. Vous allez ramasser des petits os, vous allez ramasser des fleurs, vous allez ramasser des plantes, des plumes d'oiseaux, des choses comme ça, qui vont vous permettre de fabriquer des petits outils, en fait, comme...
Des flèches.
Des flèches, des potions. Des petites grenades... qui peuvent endormir, qui peuvent rendre fou, qui peuvent exploser, qui peuvent geler, enfin tout un tas de petites choses comme ça. Des remèdes, des trucs qui permettent de faciliter en fait la progression. Moi, je m'en suis pas trop servi en fait de ça.
Ah, moi si, à des moments en fait, quand j'étais dans des endroits de la carte où c'est un peu compliqué, t'essayes de trouver des éléments pour lutter contre.
Autre nouveauté aussi qu'on a dans le jeu et qui fait partie des trucs accueillants, dont on parlait aussi.
Pour les nouveaux joueurs.
Ouais, accueillants pour les nouveaux joueurs, c'est le coup du bouclier de la parade.
Ouais, la parade qui est un système qui est vraiment, vraiment, vraiment bien pensé et qui est ouvert à tous, en fait. L'écueil, ou alors le truc qui était un peu gênant dans les Dark Souls, ou même dans Sekiro, c'est qu'il fallait timer, vraiment placer de manière précise son contre.
Bah, la parade au bouclier était difficile, hein. C'était vraiment quelque chose qu'il fallait apprendre à faire. Et
connaître bien aussi la manière de réaliser une attaque de ses adversaires, en fait, des ennemis, pour pouvoir la placer correctement, en fait, parce que c'est pas au hasard. Alors que là, dans Elden Ring, en fait, ce qui se passe, c'est que tu bloques, et le coup arrive sur ton bouclier, et puis derrière
tu peux mettre
une contre-attaque, en fait, et c'est quasiment systématique tant que tu as de l'endurance
en encaissant un coup avec le bouclier,
et ça c'est vraiment trop bien, quoi, en fait.
Bah, et ça, encore une fois, on parlait d'accueil, mais ça renforce aussi ce truc de qui permet d'attirer les joueurs et de leur montrer, de leur donner des mécaniques facile à prendre en main,
simple,
au début, et qui vont t'encourager petit à petit à dire « Ah ok, on peut faire ça, mais on peut aussi faire une parade parfaite. » Et ça, c'est ça, je trouve que ça te met en jambe, en fait, sur la mécanique du jeu.
Ouais, si t'as envie de creuser un peu plus le système, bien sûr, tu peux aller essayer de faire la parade parfaite, mais déjà, t'es plutôt bien positionné, en fait, juste en réalisant
un outil super simple pour t'apprendre aussi que dans le jeu il faut parer avec son bouclier, bien se protéger avec son bouclier, puis taper ensuite. Et c'est une manière très simple de valoriser les joueurs qui le font proprement, et qui disent, voilà, t'es pas obligé de faire des trucs de ouf, d'esquiver tout le temps, juste tu bloques, tu lui donnes un coup et t'as déjà gagné, quoi.
Après le craft, parmi les nouveautés, en fait, qu'est-ce qu'il y avait d'autre, du coup?
Il y a le fameux, les fameuses invocations, là.
Que tout le monde... Dans Elden Ring, il y a les joueurs qui se considèrent comme étant des joueurs purs From Software, qui n'utilisent pas ces invocations, et puis les nuls, qui utilisent cette possibilité de jeu qui a été créée par les producteurs de Elden Ring pour une raison importante quand même en fait.
En fait c'est juste une petite feature dans le jeu qui permet une clochette en fait, via une clochette je crois, qui permet d'invoquer l'esprit d'un ennemi ou d'un ami qu'on a au préalablement récupéré dans un coffre qu'on a looté quoi dans le jeu. En gros on finit une grotte, hop, à la fin on a une récompense, et dans cette récompense il y a la possibilité d'invoquer telle ou telle créature en fait. Donc au début en plus on récupère assez vite des loups, qui sont trois loups qui sont assez utiles en fait au début. Et en fait on va pouvoir dans certaines circonstances, pas tout le temps, notamment quand on est dans une grotte, quand on combat un boss, invoquer un allié en fait qui n'est pas un PNJ du jeu. Parce que ça aussi il y a la possibilité d'invoquer comme dans les autres jeux en fait parfois,
comme dans les anciens From Software,
voilà un PNJ pour nous aider, dont le fameux Rogier sorcier qui a été bien utile je pense dans plein de contextes,
c'est clair,
et d'invoquer justement ces petits trucs qui changent, qu'on peut améliorer aussi au fil du jeu. Moi j'aimais bien le mimique, à un moment donné on peut avoir un double
de soi,
qui est assez utile. Mais il y a aussi des loups, des méduses, en fait toutes les créatures quasiment du jeu peuvent être invoquées en ami. Je crois que même les tortues elles peuvent être invoquées,
enfin, j'ai pas vu ça,
mais en tout cas ouais, toutes les, et avec des trucs spéciaux, je crois que par exemple la méduse elle jette du poison,
c'est ça, donc c'est un perso qui fait une attaque à distance
qui est plutôt à distance et en même temps qui a beaucoup de vie je crois par rapport aux autres, enfin chaque invocation va avoir un truc particulier qui permet d'être utilisé dans certains contextes, et ouais ça a été un des éléments aussi je pense très aidant pour les gens, parce qu'il permet aussi de se faciliter la vie en fait dans plein de situations quoi.
C'est ça, et c'est justement ce côté aidant qui a peut-être créé un peu de polémique par rapport aux fans hardcore de jeux From Software.
Qui pour eux c'est juste un truc facilitant, alors que c'est un truc du jeu, c'est un truc fun en plus moi je trouve, parce que il y a plein de créatures différentes donc on peut s'amuser à en essayer des différentes. Et puis en fait, si le jeu a été équilibré avec ce truc intégré, c'est que le jeu est pensé comme ça. En fait.
Oui, c'est clair.
C'est pas quelque chose d'ajouté en mode facile. C'est un élément qui est intégré dans le jeu et qui permet aussi l'équilibrage du jeu, qui est à mon avis parfois un peu compliqué. Donc ça, on pourra en parler après. Mais je trouve qu'il y a un problème, un vrai souci d'équilibrage, et ça fait partie des choses qui permettent à la fois de mieux équilibrer et qui déséquilibre aussi parfois.
Moi c'est en tout cas un élément qui m'a apporté beaucoup de plaisir en fait, parce qu'il y a des moments où c'est un peu compliqué dans le jeu effectivement, et c'est vrai d'avoir ce petit plus d'invocation qui du coup permet de détourner l'attention du boss et de lui placer un weapon art ou une magie en fait, c'est très très cool quoi en fait, et c'est vrai que moi je trouve que c'est une excellente idée, et je pense que ça a participé justement à populariser Elden Ring.
Ouais carrément, je pense qu'il y a plein de gens qui sont rentrés dedans par là, parce que il y a en plus de ça vraiment des éléments de plus agréables en fait de way of life pour jouer au jeu quoi. Par exemple un des gros changements qu'on voit, c'est que on a maintenant dans le jeu la possibilité de se téléporter à un site de grâce tout le temps,
oui,
alors qu'avant c'était contraint
à certains moments,
à certains moments, et quand on se téléportait à un site de grâce on perdait l'expérience accumulée. Ce qui veut dire que on pouvait se retrouver dans des situations vraiment compliquées où on avait accumulé énormément d'expérience, fallait pouvoir la dépenser, on n'avait plus de potions, sans potions, on ne peut plus se soigner, ça veut dire que si on croise des ennemis, on risque de se faire tuer, de perdre toutes nos âmes, etc., etc. Et on rentrait dans ce truc très Dark Souls de peur à chaque coin de truc, pas envie de perdre ses âmes, tout ça. Là, c'est plus du tout le cas. Dès qu'on se sent un petit peu rempli d'âme et qu'on a envie de s'en aller, on s'en va. Quand on tue des ennemis dans le monde ouvert, on peut récupérer aussi de la potion. Il y a certains petits scarabées aussi, des scarabées, comment ils s'appellent ?
Céruléens. Je crois céruléens.
Je crois que c'est la potion, ça.
Oui, pardon. Je sais
non,
plus.
Non, mais des bousiers,
oui.
quoi.
Oui, mais,
qui
oui c'est
des
ça.
Des boules, et quand on les tue, en fait, on récupère une potion. Ou alors, quand on tue certains groupes d'ennemis, on récupère une potion aussi.
Oui, quand on a un groupe qu'on a abattu, ouais. Effectivement, une horde, qui forme un groupe. Donc, effectivement, à la fin, une fois qu'on les a éliminés, c'est vrai que tu récupères une partie
Tous ces éléments-là qui font que l'expérience est plus fluide, en fait. On a moins ce côté survie, en fait.
J'ai trouvé ça simplement plus agréable, en fait.
Ah ouais, c'est plus agréable. Je trouve qu'on perd quand même quelques subtilités dans l'approche des niveaux dans lesquels on est, parce que quand t'es dans un château et que tu sais très bien que bon, allez, si t'es un peu dans la sauce, t'as juste à revenir et tu repars et t'es tranquille. C'est pas pareil que quand t'es là et que t'essaies de trouver le prochain feu de camp absolument, parce que sinon tu risques de mourir.
Oui, il y a moins de stress.
C'est plus détendu et le jeu cherche, à mon avis, à être plus ouvert, plus accueillant, en fait. Depuis tout à l'heure, en fait, de toutes ces petites évolutions que donne Elden Ring, en fait, aux joueurs, et que ça passe par des petites mécaniques de jeu ou par l'aspect juste monde ouvert. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que c'est une vraie nouveauté, une vraie avancée et une progression, ou est-ce que tu penses que c'est un changement de game design du jeu, mais qui n'est pas forcément mieux, qui n'est pas forcément une progression mieux, mais que c'est juste un jeu différent?
Moi, je trouve que c'est une amélioration, ouais. En fait, de la recette classique des From Software. Pourquoi c'est une amélioration? Parce que je pense qu'une des premières frustrations liées au jeu, au Souls-like, en fait, c'est la difficulté d'aborder un adversaire. Et la question mais mince, j'arrive pas à le passer, donc je peux pas avancer dans l'histoire.
Je peux pas continuer l'histoire, je suis bloqué. Ouais. Quoi.
Je peux pas avancer dans l'histoire, je suis face à un mur, en fait.
Très très rétro, ça, le fait de dire je suis bloqué dans un jeu, ça existe plus.
Ça me fait penser à Megaman, ça me fait penser à Metroid, justement, effectivement. Et donc ça, c'est quelque chose qui moi m'a tout de suite plu, en fait, dans le jeu. C'est le fait de pouvoir se balader ailleurs, d'aller voir ailleurs.
Ouais.
Et de gagner de l'expérience.
Après avoir pris trois claques par le prochain boss.
Exactement.
Je m'en vais, je vais faire autre chose.
Je vais aller faire autre chose, exactement. Je vais déambuler ailleurs et je vais prendre des niveaux et revenir peut-être me trouver une autre arme, trouver une autre façon d'aborder le boss. Et voilà. Et ça, je veux dire, cette sérénité face à l'échec, c'est quand même très, très cool. C'est vraiment très très cool et c'est là l'intérêt quand même de ce côté ouvert, en fait, du jeu. Moi, je trouve que ça aurait pas été la même chose. Après, le jeu est beau, il est magnifique, il n'y a pas de souci, il y a un bestiaire qui est incroyable, mais si tu te retrouves vraiment coincé toujours à la même porte, en fait, c'est juste... là aussi, l'ADN du jeu, du Souls-like, en tout cas, c'est... tu répètes tes échecs jusqu'à ce que tu arrives à les surpasser, en fait, et tu comprennes. Ce passage-là est un peu moins présent, même si tu te ramasses quand même beaucoup de morts quand même. Ouais. Mais tu peux détourner le truc. D'ailleurs, tu peux même contourner des fois.
Il y a des grands passages qu'on peut contourner.
Ouais, tout à fait.
Moi, perso, j'ai vraiment à la fois été émerveillé au début parce que l'exploration, parce que la progression sur la carte est assez bien faite, parce qu'en fait le jeu se construit un peu comme un genre de spirale qu'on va suivre, en fait.
On part du centre de l'escargot pour aller vers l'extérieur.
C'est ça, en fait, en continuant comme ça, et on suit un chemin quand même. Même si le jeu tend à vouloir être un monde ouvert, il y a quand même une orientation qui nous fait nous fait découvrir des zones les unes derrière les autres, avec à chaque fois, quand on arrive dans une nouvelle zone, quand même ce moment un peu magique où on arrive et bam, on voit l'étendue devant nous et on se dit ok, ça y est, je vais explorer. Je trouve que c'est à la fois magique au début et pesant sur la fin. Moi, j'ai trouvé que le côté ouvert donnait des sensations de répétition et la sensation que le jeu n'arrive pas à se terminer, en fait. Que le jeu n'arrive pas à trouver une conclusion adaptée et qu'il va toujours chercher te proposer une nouvelle zone avec tout ce qu'il y a dedans, donc une petite mine, une petite grotte, un petit machin, un petit camp d'ennemis, tout ça, tous les trucs classiques que tu as déjà fait avant, mais avec une nouvelle sauce. À chaque nouvel espace de jeu, en fait.
Bah, je sais pas si ça tient tant au fait que ce soit un monde ouvert. Plutôt, je pense que c'est lié au gigantisme de la carte.
Ouais.
La carte est gigantesque. Elle est vraiment hors norme en termes. Ouais, ouais. Enfin, je trouve qu'en termes de taille, c'est ouf, vraiment ouf. Et du coup, comme elle est grande, il a fallu la remplir. Et donc, du coup, tu as des éléments de répétition qui viennent et qui participent à saouler, quoi, en fait, tout simplement. Par contre, moi, le côté ouvert, moi j'ai trouvé ça dingue, en fait. Et les niveaux aussi, qu'il y a... parce qu'il y a un truc qui se passe en surface, mais il y a aussi un truc qui se passe en sous-sol, en fait. Et dans le ciel aussi, d'ailleurs, qui est assez cool. Et pour le coup... c'est pas le côté monde ouvert, c'est vraiment le gigantisme de la carte et la récurrence d'apparition du même nombre des mêmes ennemis, en fait, à un moment, en fait.
Il y a plein de situations où t'as affronté un boss une fois, tu l'as trouvé extraordinaire. Moi, la première fois, par exemple, je sais pas si tu te rappelles des espèces de chevaliers draconiques qui sont grands et qui rampent un peu, genre, et qui sont hyper grands et qui ont une grande épée.
Ah non, je me souviens pas.
T'en rencontres.
Ah si, avec la mèche rousse et qui. Je vois très bien. Ouais.
Et tu vois, t'en rencontres un.
Ouais.
Tu dis, waouh, extraordinaire, il est trop beau. Moi, j'ai passé énormément de temps dessus pour essayer de le battre parce que je pense qu'il était un peu élevé, plus élevé que moi en termes de niveau, tout ça. Sauf que, en fait, tu te rends compte qu'il y en a 3 ou 4 autres.
Ouais.
Et les 3 ou 4 autres, en fait. Le plaisir que tu as eu la première fois, ça devient une espèce de corvée de dire « ok, faut que je le batte
».
Moi aussi, sur le côté monde ouvert, j'aurais tendance à dire que ça encourage une forme de déséquilibre général dans le jeu qui, plus le jeu avance, plus il s'accentue. C'est-à-dire qu'au début du jeu…
Plus le jeu avance, plus le déséquilibre s'accentue, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. Okay. En fait, au début, on a plein de petites choses à faire. On va faire… un petit château, le premier gros château, donc Voie l'Orage, donc est l'espèce de premier gros donjon.
Donjon, ouais.
Avec un boss à la fin, tout ça, on avance. Lui Lurnia, donc la zone d'après, pareil. Et en fait, au bout d'un moment, plus on explore, plus on devient fort, et plus certaines zones du jeu deviennent trop faciles, ou inversement, on se retrouve dans un endroit où c'est trop dur. Et forcément, avec un jeu avec une telle échelle et avec aussi peu de contraintes, et ça génère parfois des choses où on va arriver dans une zone et en fait c'est trop facile.
Ouais, tu vas la cheater.
Moi je sais que le boss de la capitale.
Oui.
Je l'ai écrabouillé en quelques secondes parce qu'en fait j'avais déjà tout, j'ai tout exploré, tout fait machin. Et quand t'as déjà fait des From Software, que tu sais un petit peu comment le jeu fonctionne. Et que tu te fais un peu moins surprendre par les statistiques du jeu, par les ennemis, par les trucs. En fait, il y a plein de moments où tu trouves que le jeu est pas assez. Pas qu'il n'est pas équilibré. Assez dur, mais qu'il n'est pas équilibré.
Ah, c'est équilibré.
Bon, en fait, c'est l'équilibre parce qu'il y a moins de contrôle.
En fait, c'est la contrainte du monde ouvert, du coup.
Ouais, carrément.
Parce que les producteurs du jeu ont imaginé un chemin, je pense, un chemin idéal, en fait.
Tu fais un petit peu.
Oui, mais des fois, tu peux te... Ouais. Moi, je me rends compte, là, après avoir fini le jeu, je me suis penché un peu sur le lore, tout ça, et puis sur comment l'aborder, en fait. Et il y a des gens qui conseillaient un chemin, en fait, pour qu'il soit le plus équilibré. Tu te rends compte que oui, c'est pas forcément par là que tu vas passer. Il y a plein de trucs sur lesquels tu vas insister... en restant déjà rien que dans la première zone qui est gigantesque, en te retrouvant, en te téléportant quelque part pour essayer de trouver un élément, et puis après te retrouver sur un coin de la carte, en fait, que tu n'es pas censé faire, qui est hyper, hyper chaud, en fait, et tu dis je reste, je persiste, et tu montes, puis tu te retrouves sur la partie de la carte que tu étais censé faire. Effectivement, c'est facile, quoi.
Ouais.
C'est là où ça manque un peu de guide, de guidage, je dirais. Mais c'est aussi Ouais, oui.
Moi, je trouve qu'il y a un problème dans le contrôle de la progression, mais après, encore une fois, c'est les avantages de ses propres défauts, quoi.
Oui, c'est ça.
C'est-à-dire que tu peux pas laisser autant de liberté d'exploration sans
Sans avoir
nuire, en fait, à
ce...
ton
Ouais,
équilibrage.
c'est ça. C'est
Tu vois,
ça.
je trouve que, ou alors, c'est peut-être possible, mais il faut encore faut que ce soit enfin, faut réussir à le faire.
Après, sur le déséquilibre, c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, tu te rends compte qu'il y a des ennemis qui sont vraiment trop forts. Et genre, mais des mobs, enfin
Ouais.
des personnages classiques que tu... C'est pas des boss, quoi. Ils sont hyper durs, en
Ouais, ça
fait, tu
devient
vois.
absurde. Il y a des boss, enfin des mobs, donc vraiment des trash mobs, des personnages, des ennemis de base du jeu, de fin, qui sont plus forts que certains boss du début.
Ouais, c'est
En termes
clair.
d'un point de vue statistique, strictement statistique, ils ont plus de vie et ils se tapent plus fort que les premiers boss.
C'est ce qui est un
Ce qui
peu...
est, alors, je comprends d'un point de vue
C'est
vidéo,
non
jeu
sensé,
vidéo,
quoi.
mais en même temps, je trouve que ça a tendance à créer justement sentiment de lassitude. Pareil sur les dragons, tu vois. Les
Quand t'en
dragons,
fais un,
le
quand tu fais
premier,
le premier, ouais,
extraordinaire.
c'est fou la manière dont il débarque.
Et puis le 15e, tu dis oui, bon,
C'est un peu
j'ai
relou,
compris quoi.
ouais, c'est
Et
clair.
je trouve que ouais, ce monde ouvert se tire lui-même un peu dans les pattes comme ça. Et que il aurait gagné à être un peu moins long et à être un peu plus dense peut-être au niveau de certains éléments et à accepter de s'arrêter en fait au bout d'un moment. Et moi, à la fin, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce truc de ah, j'en ai marre, j'ai envie que ça se termine en fait. J'avance, mais j'ai envie que ça se termine. Pareil, quand tu arrives dans la dernière zone, une des dernières zones du jeu, là, l'arbre sacré, machin, et que tu retrouves les mêmes gardes qui ont changé de couleur, alors ils sont un peu plus forts que ceux du premier donjon,
Ouais,
il y a un
non, c'est
côté
clair.
parfois un peu qui peut être un peu frustrant, quoi. Et justement, à comparer, parce que j'ai refait récemment Dark Souls 3, donc j'ai refait le truc en entier, tous les DLC, tous les trucs, enfin j'ai vraiment refait le jeu bah, comment on
En
dit?
entier,
En entier, très complet,
entièrement, de
en
A à
entier, de A à Z,
Z,
voilà,
ouais, de
c'est
A
ça que
à
je
Z.
cherchais. De A à Z, et en fait, c'est ouf, la densité, la variété, et le niveau de détail, en fait. Je trouve que tu gagnes tellement en fluidité, parce que chaque nouvelle zone, tu vas avoir les nouveaux ennemis. Faut comprendre la logique de la zone parce que t'as pas de carte. Enfin, en fait, tous ces éléments-là, moi, me sont beaucoup plus ludiques que le fait de se déplacer dans un monde ouvert. Même si j'apprécie énormément Elden Ring, et je pense que ça restera. Enfin, il y a des moments du
Non, mais
début.
enfin, pour moi, j'ai vécu des moments
Ah ouais, non mais le début.
d'émerveillement dans le jeu à plusieurs reprises. Enfin, c'est
C'est
dingo.
ouf. Moi, les 50 premiers pourcents du jeu, c'était claque sur claque sur claque. Tout est ouf, quoi. Des moments où tu restes béat devant la beauté de l'endroit où t'es, devant ce que le jeu te suggère quand t'es dans ce fameux ascenseur là, et que tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je comprends rien.
La Siofra, le jour où vous découvrez la Siofra, mais enfin, claque quoi,
Avec
claque
des
monumentale.
boss magnifiques, il y a quand même y a un truc magique moi qui se passe quand au début du jeu où tu t'es là, t'explores et tu te dis, mais attends, c'est l'aventure quoi. C'est l'aventure. Et une lassitude sur la fin. Et je trouve que. Perso, je pense que le jeu aurait gagné à être
Être
plus
raccourci, un peu plus
raccourci,
ramassé.
ramassé sur lui-même. Et je pense que moi, le passage au monde ouvert, je le vois pas forcément, tu vois, comme une. C'est un bel essai, c'est un beau jeu. Mais pour moi, c'est aussi une perte d'identité sur certains trucs,
Ah
tu
ouais, tu
vois.
trouves?
Bah ouais.
Ouais, parce qu'ils se sont conformés à un standard qui
Bah,
n'est pas le leur, en
voilà.
fait, c'est ça?
Bah. Moi, je trouve qu'ils se sont confirmés un standard, que c'est un bon standard. Enfin, tu vois, c'est un standard. C'est pas, y a pas d'élément, tu vois, de jugement dans le fait que ce soit un standard. C'est un standard. Eux aussi, ils avaient leur propre standard, qui est un standard qu'ils ont repompé aussi eux-mêmes, tu vois. Donc, ils ont leur standard. Mais je trouve que, bah, des fois, ça jure. Quand t'es je sais pas, au 6, 7e arbre sacré avec le boss, là, tu sais, le boss de l'arbre sacré, que tu rencontres pour là, je sais pas combientième fois. Qui fait les mêmes que là, à chaque fois il y a un petit changement mais qui est pas ouf, tu dis enfin, moi c'était tu le vois vraiment comme une corvée de monde ouvert, sauf que je suis dans un From Software en fait. Du coup moi j'ai pas envie justement de ça. J'ai envie de jouer à un From Software qui
Ouais,
va
bien
aller
sûr.
me proposer une expérience très particulière. Et je suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, qu'il faut pas y jouer, que
Absolument
truc.
pas.
Moi je l'ai trouvé extraordinaire. Mais je serais toujours beaucoup plus enjaillé par la formule Dark Souls, par Sekiro, parce que c'est des jeux que j'ai envie de refaire, parce qu'il y a un truc ludique qui se passe qui est beaucoup plus, je trouve, beaucoup plus perfectionniste. okay. que là. Moi, je trouve que le jeu manque peut-être de perfectionnisme. Alors après, c'est
non,
pas
il était trop, moi, je pense qu'il était trop gros pour ses...
Ouais, je pense qu'ils auraient dû rester sur un truc plus petit, ouais. Plus petit. Mais...
Un peu plus modeste en termes de cartes et avec un peu plus de variété à un moment sur les... Après, c'est l'écueil, c'est quand même l'écueil du monde ouvert quand même. Mais oui, d'avoir quelque chose d'un peu plus restreint, ouais. Ouais, pas mal. Et tu me conseillerais de jouer à Dark Souls 3 parce que,
Pour moi, Dark Souls 3...
C'est le meilleur des Dark Souls pour toi
Moi, je garde un amour indéfectible pour le premier.
Ouais.
Parce que on en a parlé déjà, hein, c'est une espèce de révélation. En fait, il y a un truc bizarre qui se passe dans ce jeu, c'est assez ouf. Mais Dark Souls 3, pour moi, est une espèce d'apothéose. Tu vois, le jeu est trop précis, en fait, trop parfait. Il lui manque peut-être le côté peut-être un peu plus brouillon, un peu plus crado que pouvait avoir Dark Souls parfois. Là, il est très très explosif, très tout le temps, il t'en met plein la vue tout le temps. Moi, c'est un plaisir ce jeu. Je trouve que c'est il cherche vraiment à te secouer tout le temps. Tu t'explores toujours des zones plus bizarres les unes que les autres. En plus, la version avec les DLC supplémentaires, tout ça donne vraiment un jeu hyper dense, mais que tu fais en. Quand tu connais bien le jeu, tu le fais en 15 heures, quoi.
Ok.
Tu vois, quand tu connais vraiment le jeu. Après, quand tu découvres, tu mets 2 à 3 fois plus de temps. Mais ça reste, tu vois, tu vas y passer 30, 40 heures, quoi. Pas 80 ou 90, comme ça peut être le cas pour Elden Ring. Pour moi, c'est un must have, tu vois, Dark Souls 3, ne serait-ce que parce que c'est une espèce de d'évolution du premier Dark Souls,
une synthèse.
Version top, quoi.
Ok. Bon, ben, je ne reste plus qu'à essayer d'y jouer, du coup. Bon, Blaise, donc, du coup, t'as été quand même un peu critique sur le jeu.
Critique sur... En fait, c'est bizarre, moi, à la fois, je l'adore. Et je sais que je l'ai adoré. J'ai vécu des moments, comme je disais, vraiment fous dessus. Et à la fois, aujourd'hui, avec le recul, ça reste une forme de déception.
Une déception quand même.
Forme de déception.
Okay.
Pas la déception là, avec un grand D.
Ouais.
Avec un gros D même. De la grosse D même. Non, j'exagère, mais j'ai un peu de déception, ouais.
Ok. Moi, je suis pas. Moi, j'ai trouvé que. Enfin, c'est marrant, mais moi, j'ai progressé. Donc, je progresse dans les From Software. Sekiro, Dark Souls. Et puis, là, Elden Ring. J'ai trouvé que. Moi, j'ai passé plus de 200 heures sur Elden Ring. J'adore. Mais c'était comme pour Zelda, en fait. J'ai passé énormément de temps sur Zelda. Mais parce que j'adorais. J'ai adoré, en fait, me balader. Tout simplement, prendre des niveaux. Perfectionner ma manière de manier une arme, voilà quoi. Donc c'était plutôt, j'étais plutôt satisfait en fait moi de mon expérience d'Elden Ring. Et c'est vrai que j'ai hâte maintenant d'y retourner. J'ai eu du mal à le lâcher. Ouais. Parfois j'y retourne comme ça, mais j'ai eu du mal à le lâcher. Et c'est vrai qu'il y a un DLC qui a été annoncé.
Ouais.
Et j'ai hâte d'y retourner.
Shadow of the Erdtree.
Ouais, l'ombre de l'arbre sacré en fait là. Et j'ai vraiment envie de d'y retourner, de voir un peu de ce que ça donne, parce que je suis attaché quand même à cet univers.
Je pense que moi je relancerai, je le ferai avec plaisir. Je l'ai toujours pas désinstallé de mon ordi, donc c'est dire que j'attends quand même que le truc sorte. Enfin, voilà, j'ai beau être critique, je le garde quand même près de moi.
Ouais,
mais voilà, pareil, j'attends que le truc sorte, histoire de faire un dernier tour dans le jeu. Pour l'instant, à l'heure où on enregistre, il a juste été annoncé. On n'a pas vraiment de.
Non, il n'y a pas de date.
Date.
Tout ce qu'on sait, c'est que le jeu s'est très bien vendu. Il s'est vendu à plus de 20 millions d'exemplaires. Ouais. C'est un exploit chez From Software parce que le jeu qui s'est le plus vendu, c'est Dark Souls 3,
ouais.
avec 10 millions d'exemplaires. Alors que, et sur une première année, en fait, l'exercice, il est incroyable.
Ouais, pour 20 millions en un an, c'était inespéré pour eux. Et c'est aussi la preuve que le monde ouvert, même si on peut être critique de la forme que ça prend et de ce que ça crée en termes de game design, on disait déséquilibre et répétition, et pour le grand public, et en tout cas pour essayer d'attirer du monde vers son jeu, ça fonctionne, quoi.
Et ce jeu va sûrement, a déjà, à contribuer à augmenter la fanbase de From Software et va sûrement attirer de nouveaux joueurs vers leur prochaine sortie, qui est quoi? C'est. Comment il s'appelle ce jeu?
Armored Core.
Armored Core, exactement.
Alors, là, Armored Core n'est pas encore sorti, par contre.
Non, il va bientôt sortir.
Fin août, là, bientôt.
Mais quand l'épisode sera sorti, peut-être qu'il sera déjà sorti.
Normalement, non. Si tout va bien, non.
Ah ouais, bon, alors, ok, parfait, nickel.
Mais ouais, pareil, Armored Core, à voir si quel, vous voyez, j'ai vu un peu de gameplay, ça a l'air d'être quand même bien dynamique, avec un esprit quand même un peu action. Donc, hâte de voir ce que ça va donner et quels éléments de Dark Souls et de Elden Ring ils vont aller chercher pour le nouveau Armored Core. Ça, c'est clair, hâte de voir ça.
Donc voilà. Mais merci Blaise.
Merci à toi, salut.
À bientôt, prenez soin de vous.
Nous espérons que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé et si vous avez testé le jeu. À bientôt pour un autre épisode de Point de Sauvegarde et surtout, n'oubliez pas de sauvegarder. You never know what's around the next corner.